Bienvenue dans l'heure du documentaire en cette semaine de portrait au féminin. Après Dina Vierny, c'est une figure majeure du documentaire suisse que Johanna Bedeau a souhaité rencontrer près de Lausanne. Cette cinéaste a dû construire patiemment des armes qu'elle a déposées en 2013 après plus de 60 films. Dans les influences qu'elle reconnaît, Jean Rouch, mais aussi Margaret Mead, qui avait écrit dans L'un et l'autre sexe, les femmes ont des talents inemployés. La société doit innover pour qu'elles puissent exprimer tout leur potentiel, qu'elles contribuent à la civilisation, comme elles participent par ailleurs à la perpétuation du genre humain. Ce qui pourrait sembler une évidence aujourd'hui était en 1949 une vraie profession de foi. Ethnologue de formation, Jacqueline Veuve a inscrit son travail documentaire dans la région de Payerne, dans le canton de Vaud, où elle était née. Avant de la rencontrer, c'est un témoin attentif de sa vie qui témoigne, son mari, Léopold Veuve.
Elle a de l'énergie, il faut tout le temps que ça bouge. Je prends toujours cette image du cycliste, quoi. Elle est comme le cycliste qui n'est en équilibre que lorsqu'il roule. C'est la même chose pour Jacqueline, quoi. Donc, faut que ça bouge, faut que ça, etc. Alors. Et avec ça, il a toujours. Son esprit toujours en vagabondage, et avec ça, évidemment, elle est très distraite parce qu'elle pense à des tas de choses, et puis elle oublie d'éteindre, elle oublie ceci, elle se trompe de rendez-vous. C'est comme ça, quoi, je veux dire. Alors, c'est des relations qu'on gère finalement assez bien, par le fait qu'on a chacun nos domaines d'intérêt. La première fois, je l'ai rencontré à Paris. Ouais. Moi, je travaillais à Paris pendant un peu plus d'une année. Et puis, il est venu avec mon ancienne amie. Elle est venue avec elle. Et puis, c'est là que j'ai fait sa connaissance. Quoi. Je trouvais que c'était une belle fille. Mais ce qui me frappait beaucoup, c'était son accent vaudois. Et ça, je trouvais, elle est bien, mais quel accent elle a, c'est incroyable. Puis après, on s'est revus parce que l'école d'architecture où elle était en stage a organisé un voyage en Grèce dans un mois. Puis elle en a fait partie, j'y étais aussi. Puis c'est là qu'on s'est connus, quoi, vraiment.
Et qu'est-ce qui vous plaît, mis à part son accent vaudois, c'est...
Elle s'intéresse à tout, et je dirais plus précisément aux choses de la vie. Et je crois que si elle s'intéresse aux choses de la vie, c'est en grande partie lié à son enfance et à sa jeunesse. Disons, cette approche assez globale, bien que, en fait, quand je dis globale, c'est un peu excessif, parce que c'est quand même une approche essentiellement humaine.
On a l'impression, comme ça, quand on rencontre Jacqueline Veuve, qu'on est contaminé par son enthousiasme, que tout l'intéresse, que...
Ouais. C'est pas facile, son esprit vagabonde, et puis de temps en temps, il s'arrête, et puis quand il s'arrête, ça veut dire qu'il y a une action à entreprendre, et puis comme elle est impatiente, il faut le faire tout de suite, et puis elle fait pression pour que ça se fasse, et là je suis obligé d'opposer un peu une inertie, parce que... Bon, il y a des urgences, mais bon, très souvent, il n'y a pas d'urgence. Donc, on n'a pas la même relation au temps sur ces choses quotidiennes. Non, maintenant, la question, c'est de voir quelle suite, quoi. Parce que, bon, il y a quand même le phénomène de l'âge. Et puis, faire un film, ça demande énormément d'énergie. Ce dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et là, est-ce qu'elle aura encore l'énergie de le faire? Et puis, si elle n'a pas cette activité, je reviens à mon problème de cycliste. Je veux dire, comment elle sera en équilibre?
Face au lac Léman, à Lausanne, Léopold Veuve parle de Jacqueline Veuve. Qu'est-ce qui intéresse la cinéaste dans les thèmes qu'elle aborde à travers ses documentaires? Une civilisation qui est amenée à disparaître? Fabricant de fromage, tourneur sur bois, vigneron, fabricant de luge. En toute discrétion, elle entraîne et amène avec elle son public, en s'imposant comme l'une des plus importantes cinéastes documentaires suisses. Son premier film, Le panier à viande, en 1966, sur le bouchoyage, dans une ferme vaudoise, lance sa carrière de cinéaste. Puis vient La mort du grand-père, ou Le sommeil du juste, un film qui retrace l'histoire de sa famille à partir de son grand-père, signant ainsi une tranche d'histoire sociale de la Suisse romande. Elle réalise ensuite de nombreux documentaires comme Le métier du bois, Chronique paysanne en gruyère, L'homme des casernes ou La nébuleuse du cœur, ainsi que deux fictions. Au total, plus d'une soixantaine de films. Attentive au bruit du monde, Jacqueline Veuve observe, écoute et ne donne pas de commentaires personnels sur ce qu'elle voit et sur ce qu'elle entend. Elle filme sans nostalgie, un pays qu'elle s'attache à montrer à travers son armée, ses artisans ou ses paysans, en puisant dans ce qu'elle a vécu, principalement dans la région de Payerne. Comme disait Jean Rouch, le cinéma ça se touche, le cinéma ça se sent, ça se goûte, c'est un acte d'amour. Jacqueline Veuve, une cinéaste sensible au bruit du monde. Un documentaire de Johanna Bedeau et Rafik Zenin.
J'ai pas osé d'abord faire du cinéma parce que c'était mythique. Et puis, je me disais jamais j'oserais. Enfin, il y avait pas de femmes cinéastes. Puis en Suisse, encore moins. On ne peut pas dire qu'on soit très féministe. En plus, alors je me suis dit, je vais travailler autour du cinéma, dans le cinéma, autour du cinéma. Et puis, j'avais fait un diplôme de bibliothécaire documentaliste. Et là, j'ai eu la chance d'aller travailler à Paris, au Musée de l'Homme. Et il y avait une femme extraordinaire qui faisait partie du réseau de résistance au Musée de l'Homme avec Germaine Tillon. Et c'était Yvonne Audon. Et puis elle a compris que je voulais pas rester dans une bibliothèque. Alors elle m'a fait connaître Rouch. Et puis après, là, j'ai fait longtemps des catalogues de films, enfin des analyses de films, des catalogues pour l'UNESCO. Et puis on allait voir, surtout la cinémathèque à l'époque était à côté du Musée de l'Homme. Alors j'allais tous les jours au cinéma, c'était ma vraie culture cinématographique. J'allais avec Rouch souvent, alors il m'apprenait à voir quelque part.
Vous regardiez ensemble les films ?
Oui, et puis bon, moi j'étais jeune et naïve évidemment. Alors je trouvais bien ce qu'il trouvait pas bien, il expliquait, il n'avait pas toujours raison, mais il avait souvent raison.
Et comment vous avez acquis votre formation ? À quel endroit ? Donc, vous avez commencé à Paris, ensuite vous vous êtes formé petit à petit à Zurich ou à d'autres endroits ?
Alors, j'ai pas fait de film quand j'étais à Paris. Je voulais en réaliser un, mais j'osais pas encore.
Vous aviez quel âge à cette époque ?
J'avais 23, 24, 25. Et puis ensuite, je me suis mariée, je suis rentrée en Suisse. Et là, bon, je suis retournée au ciné-club, enfin ce qu'on appelait le ciné-club. Et j'ai mis un moment à... Je travaillais pour le CNRS à Paris, mais j'allais souvent à Paris, mais c'était pour des analyses de films. Et puis je me dis, mais il faut vraiment que je sorte une fois. Et puis, alors j'ai rencontré, plus tard, en 65, j'ai rencontré un cinéaste qui, comme moi, cherchait un sujet d'art et tradition populaire ou ethnographique. Et puis, on a fait notre premier film ensemble, ce qu'on a appelé Le panier à viande, c'est-à-dire sur une boucherie. Et pour moi, c'était difficile parce qu'on a attribué le film à lui. Mais c'était parce qu'on n'était pas féministe. Et puis, souvent, quand il y a deux auteurs, il y en a un qui se fait mettre de côté. Alors, c'est moi qui... Ça m'a fait souffrir, évidemment. Enfin, je me suis dit, je suis partie aux États-Unis, puis après j'avais lu Marguerite Mead qui disait, il faut pas marcher sur les traces d'un homme, il faut faire ses propres traces si on veut faire quelque chose. Alors j'ai fait un cours rapide à l'école, ce qu'on appelle nous l'école normale, c'est-à-dire pour les enseignants. Et puis ensuite j'ai fait le premier cours de cinéma existant en Suisse à Zurich. Donc j'avais ces deux formations, ce qui me permettait après de faire des films pour les écoles. Puis après, à côté, je me suis dit, il faut quand même que je fasse des films aussi pour moi. Et après, je suis retournée aux États-Unis. Puis c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur mes racines. Parce qu'il faut avoir 30 ans, on ne se pose pas encore. Je vais être 40 ans, je crois. Et puis je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant, quoi. Et j'ai commencé à creuser parce que j'avais entendu des tas d'histoires. Puis je me disais, je pourrais faire un film. Et puis, en rentrant, alors, j'ai commencé à préparer La mort du grand-père. Et, mais je crois que c'est parce que je suis allée aux États-Unis, puis ça m'a donné confiance. J'ai vu beaucoup de féministes, mais beaucoup hyper féministes, qui me convenaient pas particulièrement. Mais ça m'a donné un coup de fouet. Ça m'a donné le courage, en fait, de faire un long métrage.
Au total, vous avez fait plus de 60 films. Vous tournez tout le temps?
Je tourne tout le temps. Je sais pas faire, je sais rien faire d'autre, comme disait Godard, je crois. Pourquoi vous faites des films, je sais rien faire d'autre. Je sais pas, ça fait partie de ma personne. Si je tourne pas, j'ai l'impression que je n'existe pas. C'est ça. Maintenant, je suis un peu vieille, un peu fatiguée, donc c'est un peu plus ralenti. Mais dans l'ensemble, je suis en train de finir un film, puis je pense que je prépare déjà le suivant. Mais je peux pas faire autrement. J'ai rencontré une amie cinéaste qui me disait, mais quoi tu fais? Moi, j'ai pas d'idée. J'ai dit, je sais, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, hein, il y a tellement de choses intéressantes, je sais pas comment on peut ne pas avoir d'idée, mais bon.
Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir envie de faire un film de tout? Tout vous intéresse?
Pas vraiment tout, mais disons beaucoup de choses. Non, pas vraiment tout. Il y a des gens qui m'intéressent pas. Autrement, parce que je trouve que, par exemple, je suis pas une idéologue, hein, vous l'avez vu, c'est-à-dire faire un film politique, entre guillemets, et se donner bonne conscience, qui est le cas souvent des films engagés, ça m'intéresse pas autrement, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, et puis je crois que dans mon engagement, je chercherai toujours la petite bête qui fait que ça tourne pas si rond. Mais disons, c'est vrai, les paysages m'inspire et puis tout ce que je vois, je me dis je pourrais le mettre dans un film. Donc ça fait partie de ma vie, quoi. Et c'est toujours, je dis toujours, pourquoi ce film, pas un autre? Puis en fait, c'est une fois, c'est le hasard d'une image qu'on voit. Par exemple, un panier à viande, j'avais vu une photo dans un illustré pris d'une fenêtre de cochon qu'on avait déjà tué, qui était déjà écartelé. Puis je me disais, mais alors oui, ça, ce sera un bon sujet. Hein, c'est le hasard. Puis après, la nécessité de creuser. Puis quand vous commencez à creuser un sujet, vous ne pouvez plus vous arrêter.
Il y a plus de 40 ans, hein, depuis votre premier film. Comment caractériserez-vous votre parcours?
Mon parcours, d'abord, bon, il est plus historique. C'était un peu aussi par nécessité, puisque je travaillais pour ces écoles, et puis il fallait que les sujets collent, par exemple sur la dernière guerre, comme les lettres de Stalingrad, qui m'a fait connaître avec La mort du grand-père, parce que c'est un film qui a beaucoup touché, puis qui a été beaucoup vu. Et après, je me suis plus rapprochée de biographies, de moi, quelque part. Parce que si on pense à La mort du grand-père, après, il y a eu La nébuleuse, il y a eu Le salaire de l'artiste, enfin. Et là, maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est sur, pas les filles de mon grand-père, mais les ouvriers de mon grand-père, comme ils étaient misérables et mal payés, quoi, ce que j'avais jamais réalisé.
Quelle réaction a eu votre entourage, quand même, quand vous avez commencé à faire du cinéma, à la fin des années 60? Votre famille, elle a réagi comment, par exemple?
Mes parents trouvaient que je n'étais pas assez souvent avec mes enfants. Ils n'ont pas très bien réagi. Bon, ils étaient contents de voir ma photo et un article sur moi dans la presse. Mais ils trouvaient que je n'étais pas une bonne mère, pas une bonne épouse. Bon, j'ai eu de la chance parce que mon mari m'a toujours soutenue, en fait. C'était rare à l'époque parce que les hommes n'étaient pas tellement forts pour aider. Ils trouvaient que c'était pas leur boulot. Mais lui, il a compris. Et puis, souvent, par exemple, mes cousines qui le plaignaient. Ah, pauvre, t'es tout seul. Puis il disait, mais ma femme travaille, elle va pas s'amuser, jouer, faire des bains. C'est qu'elle elle fait son travail. Mais c'était en Suisse, c'était très compliqué parce que la femme qui travaillait, c'était la femme d'ouvrier qui devait absolument. Mais bourgeois, les bourgeois, la bourgeoisie dont je fais partie, c'était pas possible, quoi.
Ethnologue de formation, vous avez décidé de travailler sur votre propre pays, sur votre pays d'origine.
Oui, parce que bon, j'avais des enfants, j'ai beaucoup voyagé avec mes films pour les festivals, mais je trouvais que personne travaillait ici. Il y avait très peu, puis souvent les ethnologues, c'est pas des bons cinéastes. Parce qu'en fait, ils font des films comme on inscrirait ses notes. C'est trop bavard, ils parlent trop. Alors je me disais que je vais essayer d'éviter d'observer, de regarder, de filmer. Et puis après, il y avait beaucoup de sujets qui n'avaient pas été traités. S'il y avait de quoi faire.
Qu'est-ce que c'est être suisse? C'est toujours ça intrigue toujours un peu.
Ouais, ça c'est une bonne question. Être suisse, c'est pas facile à porter parce que on est souvent traîné dans la boue, bon, avec raison, mais souvent aussi comme bouc émissaire. Parce que ces histoires dures, et c'est assez lourd. Les secrets bancaires, là, c'était assez honteux. L'attitude du BS, le secret bancaire, le folifon juif en déshérence. Enfin, alors si vous êtes suisse, on vous dit toujours, il y avait déjà Orson Welles qui disait, bon, qu'est-ce que les Suisses ont inventé? Les coucou cloques et le chocolat. Et alors, ah, t'es Suisse, alors. Et c'est pas facile à porter. Mais en même temps, il y a peut-être une certaine jalousie, parce que c'est un pays où on vit assez bien. C'est un paradis, puis c'est un enfer, quoi. Il y a les deux, hein. Il faut voir quelles sont les parties à tirer. Mais disons, c'est beau à filmer. Enfin, beau, moi, j'aime pas la belle image, mais enfin, on peut faire quelque chose au point de vue visuel, hein. Et puis, moi, j'ai beaucoup parlé avec des gens à qui on donne jamais la parole. Mais c'est fantastique ce qu'ils ont à dire. Ils parlent simplement, autrement. Et puis, c'était aussi là de dire la mémoire. Il faut garder en mémoire ces gens qui vont disparaître avec leur savoir-faire, leur savoir-dire. Et ça, c'était pour moi, c'est ça qui est important.
Justement, quelle est votre conception du documentaire?
D'abord, il faut quand même que ce soit pas, ça n'enlaidisse pas trop le monde, enfin, qu'il y ait une certaine poésie. Parce que si c'est uniquement pour montrer l'horreur, l'alcoolisme, c'est très à la mode maintenant. Moi, je vois dans les festivals, si vous n'avez pas fait un film sur l'alcoolisme, sur un handicap, sur la guerre, vous n'avez aucune chance d'avoir un prix. Et c'est comme ça. Et il y a des années que c'est comme ça. C'est bien qu'il y ait des gens qui fassent des films là-dessus. Mais moi, je préfère faire des films sur des gens qui sont pas nécessairement boiteux et alcooliques.
Vos documentaires renvoient souvent à une perte de patrimoine. On a l'impression qu'il y a un devoir de mémoire aussi qui vous a poussé à filmer.
Oui, si vous voulez, c'est du patrimoine, mais j'essaye de pas être folklorique. Et ça, c'est pas facile. Parce que les montagnes, c'est très beau, c'est très folklorique et il faut passer. Il faut... La belle image est dangereuse, mais...
Justement, vous avez l'impression de faire quoi, alors? De faire une sorte de document? C'est ça, le cinéma, pour vous?
Oui, mais j'essaie de mélanger aussi mes fantasmes. Et puis, je disais, quoi, de la poésie, et puis de l'empathie pour mes personnages. J'essaie de mélanger tout ça.
Et de montrer, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de montrer ce qu'on ne regarde jamais.
Voilà, voilà. Les gens n'osaient pas, par exemple, avec les métiers du bois, j'ai eu des problèmes avec ces artisans, parce qu'ils disaient, mais nous, on n'était pas bons à l'école, et puis on ne sait pas parler, c'est vous qui parlez à notre place. J'ai dit, mais non. Et c'était des fois des bagarres, hein, parce qu'ils n'osaient pas parler, on leur avait tellement dit... Ils parlaient pas toi souvent trop, on leur avait tellement dit qu'ils ne savaient pas parler, et puis ils savent très bien parler.
C'est ça, vous montrez, enfin, vous rejoignez aussi un petit peu Jean Rouch.
Oui.
Il disait justement que le documentaire sert à montrer. Il ne faut pas démontrer, voilà. Il faut montrer.
Moi, c'est exactement ça, c'est la leçon que j'ai tirée, que je dis toujours de lui. Et chaque fois que je fais un film, je me dis, attends, tu montres, on ne te demande pas de démontrer. Et ça, je le fais, mais ça, c'est grâce à Jean Rouch, ça, c'est sûr. Et là, il le dit à tous ses élèves, enfin, et lui, il le fait, quoi. Il n'y a pas besoin de montrer, puis après... Vous dites ici, vous voyez une vache noire et blanche qui passe, on voit qu'elle passe.
Vous devenez, Jacqueline Veuve, en fait, une sorte de porte-parole, quand même, de toute une communauté qu'on a tendance à oublier, les artisans, les ouvriers.
Exactement.
Vous appelez ça la civilisation de la main.
Oui, c'était alors, parce qu'il y a eu 9 films sur cette civilisation de la main, sur le savoir-faire qu'on perd. La moitié de ces gens sont morts maintenant, mais ils n'ont pas été remplacés. Parce qu'il n'y a plus grand-chose à gagner, et puis c'est fini. C'est fini, ça, savoir-faire. Par exemple, les Babs dans la chronique paysanne, ils savaient tout faire, ces gens, complètement polyvalents, et ils savaient faire des luges. Et puis maintenant, la commune ne leur demande plus de descendre le bois avec leurs luges. Ils vont avec des camions, des hélicoptères. Alors, ils perdent la main, leurs enfants ne sauront plus faire des luges. C'est une culture qui disparaît, quoi. Puis c'est tout le temps comme ça, il y en a plein, plein, plein.
Comment vous démarrez un projet, alors, un projet d'écriture? Qu'est-ce qui vous inspire? Vous racontiez tout à l'heure que c'était une photo pour le panier à viande.
Par exemple, pour le film qu'on est en train de terminer, c'est retrouver une collection de photos qui avait été faite par un photographe inconnu, on n'a jamais retrouvé le photographe, sur des gens au bord de la route à Lussan, dans le village d'où je viens, qui attendent. Et puis, qu'est-ce qu'ils attendent? Le Tour de Suisse. C'est comme en 37. Et puis, on voit qu'ils sont assez pauvrement habillés. Puis, il y a juste une corde, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Et puis, j'ai recherché des gens qui vivaient encore, qui avaient été des ouvriers de mon grand-père, pour savoir comment ils vivaient. Puis, j'ai retrouvé un peu comme dans la mort du grand-père. Mais je leur avais pas donné parole, aux ouvriers. Et j'ai été vraiment très troublée et peinée de voir à quel point ces gens avaient été exploités. Mais en 37, je crois que c'était comme ça. Le patron, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas d'assurance. Tu n'es pas content? Tu fous le camp. Tu pars et quelqu'un, il y en a 10 qui attendent devant. Donc, il n'y avait aucun. Ils étaient à aucune protection, en tout cas en Suisse. Hein. En France, à partir de 36, je crois qu'il y a quand même plus de protection. Chez nous, c'est venu. Ça vient toujours quelques années après.
Là, vous êtes tombée donc sur une photo.
Oui, je suis tombée sur toute une série de photos, très belles, mais souvent une photo ou une idée. Le cœur, c'est parce que j'ai eu des problèmes de cœur, puis je me suis penchée dessus. C'est pas chaque fois le même, mais là, c'était cette collection, j'ai dit, c'est magnifique, il faut faire quelque chose. Puis j'ai eu la chance de retrouver un film assez bien fait du Tour de Suisse 37. Alors j'ai fait une espèce de montage avec les photos, le Tour de Suisse, puis ces gens qui parlent de leur enfance.
Vous vous intéressez également, Jacqueline Veuve, aux institutions. C'est important pour vous qu'il y ait une action militante à l'intérieur de vos films?
Oui, moi j'espère qu'on y voit un acte militant, parce que l'armée, par exemple, c'est tellement désuet, c'est tellement... Je sais pas, on ne peut que rire en voyant l'armée suisse. Hein. On en riait déjà avant, peut-être. Mais c'est incroyable, quoi. On se croirait au début du siècle. Et c'est parce que l'école de recrue, il faut quand même peut-être expliquer, c'est qu'en Suisse, tous les hommes, enfin, il y en a beaucoup qui actuellement ne font plus ce qu'ils appellent justement cette école de recrue. C'est-à-dire, c'est 3 ou 4 mois à 19 ans, 20 ans. Puis ensuite, 3 semaines chaque année jusqu'à 50 ans, 45 ans. C'est lourd quand même. Mais vous savez, il y en a beaucoup qui ont des problèmes psychiques, qui s'arrangent pour plus la faire quand même. Mais c'est lourd, c'est d'une perte de temps. Puis avant, en plus, quand vous vouliez faire une carrière, dans une banque, je sais pas, moi, comme ambassadeur, comme consul, vous deviez être officier. Ça voulait dire que ça faisait encore une année de votre vie à l'armée.
Vous donnez l'impression un peu, Jacqueline Veuve, de tout contrôler, enfin, de tout contrôler, de contrôler en tout cas ce qui se passe devant la caméra.
Faux, parce qu'après, si vous ne contrôlez pas, vous n'avez pas ce que vous aviez envie d'avoir, puis après, vous ne savez pas comment vous avez des ennuis au montage. Comme moi, j'ai beaucoup travaillé en film, c'était très cher. À l'époque de Jean Rouge, on travaillait sur l'original, l'inversible. On collait nous-mêmes, on ne devait pas sortir les colliers. Les gens ne se rendent pas compte maintenant. Donc moi, je suis habituée à travailler à l'économie. Alors j'écris, je fais des scénarios, je découpe, je vais interviewer les gens, j'ai toutes ces interviews. Ensuite, avec ces interviews, je fais un scénario. Et puis après, je le suis. Pas mal.
Donc il y a un gros travail de préparation, des enquêtes de terrain.
Voilà, enquêtes de terrain que je tape après. Tout, je fais taper, que j'ai les moyens. Et puis ensuite, je relis et puis je souligne les thèmes qui vont être intéressants. Puis ce qu'ils ont dit que j'ai envie qu'ils redisent, qui me paraît essentiel. Parce que des fois, ils parlent beaucoup, puis après, il y a peu de choses essentielles.
Point de vue sonore, qu'est-ce qui vous intéresse dans le documentaire particulièrement ?
Très important, le son. Je trouve qu'on ne soigne pas assez maintenant. C'est-à-dire que, je suis un peu maniaque, obsédée, mais quand je suis dans ce Val d'Hérens, il faut que ce soit des oiseaux du Val d'Hérens. Il ne faut pas que ce soit des oiseaux d'une autre vallée. C'est plus important. D'ailleurs, l'ingénieur du son, il était très attentif. Il a fait beaucoup de oiseaux. Il avait des stocks, mais disons, il fallait que ce soit là.
Qu'est-ce que l'image doit traduire, selon vous ? Quelle est l'importance, par exemple, des plans fixes, notamment
dans la
durée que vous accordez aux plans ?
Ah oui, alors moi, on se moquait un peu de moi à Arte, il paraît-il, en disant que c'était des films assez lents. Et puis c'était l'art de plier les draps en 8. Je sais pas. Il y avait une partie, les autres pas du tout, mais il y a des gens qui se moquaient parce qu'ils trouvaient que c'était trop long. Bien sûr, maintenant, moi, je dois aussi me battre parce que il faut tout avoir des plans rapides parce que c'est la mode, mais c'est pas mon style.
Votre cinéma, c'est un cinéma contemplatif, on peut dire ? Un cinéma où justement le spectateur peut participer pleinement.
J'espère qu'il peut. Que c'est l'impression qu'il a. C'est-à-dire, je crois que, j'espère qu'il apprend quelque chose tout en contemplant et puis tout en étant ému. Bon, ça va loin, mais je crois d'après ce que les gens me disent. Parce que c'est aussi important que, sans avoir l'air de rien, sans être didactique, en essayant de ne pas être didactique, qu'il apprenne quelque chose. Hein? Comme disait Rouge, montrer sans démontrer. Montrer quelque chose, puis dit tiens, ces gens travaillent, c'est fantastique la manière dont il fait une luge, toutes ses connaissances, tous les bois qu'il connaît, il doit être épaté quelque part, et puis il y a une sensualité, une relation sensuelle entre le bois et l'artisan extraordinaire, et ça, il faut que ça sorte, mais là, j'ai un très très bon chef opérateur, il faut dire.
Vous avez rapidement produit vos propres films, vos propres documentaires. Pour quelles raisons ?
Mais parce que c'est tellement compliqué là, de trouver un producteur d'ici qui se décide. Je me suis dit, il vaut mieux que je le fasse moi-même. Parce que, pas tous les films, hein, le dernier je l'ai, parce que la section cinéma, ce qui équivaut au CNC chez nous, n'aime pas trop qu'on vienne avec des projets où on est en même temps réalisateur et producteur. Donc, pour certains projets plus lourds, comme Le Petit Coin de Paradis qu'on a tourné pendant 3 ans, j'avais un producteur, mais je reste coproducteur. C'est-à-dire que j'ai un œil quand même sur la production.
Dans votre film, La Nébuleuse du cœur, vous abordez vos propres problèmes de cœur, la pose d'un pacemaker, ou
On ne pense jamais qu'on va avoir des problèmes de cœur. C'est toujours les autres qui ont des problèmes de cœur. Et ça m'est tombé dessus comme ça, où j'ai eu vraiment des malaises. Et puis on a dit, oui, il faut tout de suite poser un pacemaker. Et puis ça m'a interpellée, puis je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas un film sur le cœur ? Puis j'avais des souvenirs d'enfance, là, avec l'histoire du petit sonneur. Ma cousine m'avait raconté que notre cœur bat parce qu'il y a un petit sonneur qui tire une cloche. Et puis, quand tu es fatigué, tu meurs. Puis, on se disait, depuis le temps qu'il tire la cloche, il doit être fatigué. Puis, c'était, je trouve, une jolie histoire. C'est vrai, en plus. Et alors, je me suis dit, je vais essayer de construire un film là autour.
Vous disiez que votre fils, parfois, vous reprochait d'avoir envie de faire un film de tout. Et même de faire des lapsus à son égard, Vous racontiez ça.
Oui, mon fils, mon film. Je fais un lapsus qui ne lui plaît pas trop, oui. Oui, puis c'est vrai que Je sais pas, je vois des mouettes au bord du lac, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce d'y dire que je pourrais jamais mettre ce plan dans un film. Sauf que c'est difficile à vivre. Non, non, c'est une obsession, je crois que c'est ça.
C'est ça qu'il vous reproche?
Non, là, ouais, il me reprochait de, ouais, ce lapsus signifiait quelque chose, quelque part. Donc, il me reprochait probablement de pas être assez présente et puis de mettre toute mon énergie dans les films et dans les images. Puis il faut que je fasse attention. Je trouve que mes amis sont gentils parce que souvent je suis pas présente avec eux parce que je pense à la séquence qu'il faudra que je travaille ou à un film que j'ai envie de faire et puis un film que j'ai vu et puis je me dis ah ouais c'était une séquence. C'est très c'est obsessionnel, quoi.
Et vos enfants l'ont vécu comment, par exemple, ça le...
Moi, je crois que mes enfants l'ont pas très bien vécu. Je crois que j'ai quand même pas été une très bonne mère, parce que j'étais pas assez même présente. Enfin, j'essayais, quand j'étais là, d'être un peu plus présente, mais je crois que c'était pas très réussi. Non, ça, si c'était à refaire, je crois que je serais un peu plus attentive. Mais vous savez, vous réalisez pas non plus qu'ils ont 5 ans qu'une fois, après ils deviendront grands, et puis ma qualité d'attention n'était pas assez grande.
Vous avez 79 ans, c'est ça?
Mais oui, pourquoi? Ça me fait peur.
Justement, à 79 ans, quel est votre prochain film? Là, vous êtes en montage, c'est ça?
Ben, je suis en train de finir un film sur le village d'où je viens, avec ces photos qu'on a retrouvées du Tour de Suisse 1937. Et je l'aurai fini d'ici une semaine. Et puis après, je recommence à préparer un autre film.
Vous avez encore d'autres projets?
Sinon, j'ai un trou. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Comme je ne suis pas le genre à aller boire le thé ou aller faire du yoga avec des amis ou voyager. J'ai déjà tellement voyagé. Je voyage qu'avec mes films, autrement. C'est quelque chose qui nous habite, quoi.
Mais vous fait peur d'avoir 79 ans?
Ah oui, ça me fait très peur. Alors oui, ça me fait peur. C'est pas drôle, alors. C'est pas drôle parce que, déjà, pour les cinéastes, ouais, la vieille cinéaste, enfin, on est mis un peu au rencard. Il faut vraiment, pour exister, s'accrocher. Et puis, ça me fait peur parce que, la mort me fait peur et puis j'aimerais bien avoir 10 ans de moins parce que j'ai encore tellement de projets.
Que toute la famille garde un souvenir merveilleux de ce grand-père. Mon père était vraiment un homme exceptionnel. Même jusqu'à la fin, sur son lit de mort, il avait en lui une tranquillité, une gaieté. Et nous étions tous autour de son lit, mais c'était comme une fête. Personne n'était triste. On savait qu'il allait partir, lui aussi, et lui qui avait toujours voulu vivre. Il voulait toujours voir encore ceci, voir cela, et il voulait voir encore son petit enfant venir ici. Eh bien non, à ce moment-là, mais il était heureux de partir. J'ai jamais compris le bonheur de cet homme dans son lit. Peu à peu, son état s'est aggravé. Mais au bout de 2 jours, il nous dit en riant, vous avez cru que c'était la fin, hein? Mais vous voyez, ça va mieux. Mais il l'a dit comme ça. Puis bon, il est retombé malade, je pense qu'il a refait une seconde crise de cœur. Mais il était tout calme. Il avait énormément, énormément de peine à souffler.
Lionel Bayer est cinéaste et responsable du département cinéma de l'École d'art de Lausanne. Il assiste Jacqueline Veuve sur plusieurs documentaires et co-scénarise avec elle en 2005 « Jour de marché ».
quand elle dit qu'elle allait dans le laboratoire, on la prenait pour la secrétaire. C'est-à-dire que quand elle allait dans un labo contrôler un négatif ou demander un tirage, on lui disait, vous êtes la secrétaire de machin ou l'assistante de... Mais je pense qu'elle a été... on peut pas dire que c'était une militante féministe, et je crois pas qu'elle se définirait comme telle, elle. Par contre, de par la façon dont elle a mené sa carrière, c'est un exemple assez flagrant pour toutes les réalisatrices qui aujourd'hui font des films en Suisse romande. Et je pense que des fois, elles ont peu conscience du fait qu'il a fallu à un moment donné que quelqu'un ouvre le chemin, fasse ce travail, se fasse un peu humilier, un peu partout, qu'on ait même des teintes assez misogynes. Elle a subi des attaques assez frontales quand même sur son travail, et que comme par exemple Varda en France, elle n'a jamais été considérée comme une cinéaste de la nouvelle vague du cinéma suisse, hein, comme Varda n'a jamais été vraiment intégrée dans l'idée du renouveau du cinéma français. Et puis, elle n'était pas intégrée au groupe des 5 réalisateurs Genevois, enfin Vaudois et Genevois, qui ont mené cette campagne qui a abouti au nouveau cinéma suisse. Et aussi, peut-être parce que les thèmes étaient relativement peu politiques. Enfin, c'est insupportable dans une rhétorique qui était celle des années 60-70, où à un moment donné, il y avait une vérité à défendre, il y avait un petit livre rouge à sortir, il y avait des choses à dire. Et elle ne s'est jamais rentrée là-dedans. Et je pense que ça a peut-être un peu exclu de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma suisse.
La vacheresse, alors, il y a Parrain qui dort en bas. Et puis, il y a papa et maman. Et puis, Samuel, il dort sur le toit. Et puis, Sarah ou moi, on dort à côté. Alors, des fois, quand il fait froid, on va au lit, puis on met beaucoup de couvertures. Ou bien, on va devant le feu, mais ça va pas bien parce qu'on a chaud d'un côté, puis on a froid de l'autre. Puis, maman, elle nous raconte des histoires. Elle raconte le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Cendrillon, la belle au bois dormant, la chèvre, puis les sèches-froids. Puis c'est tout.
Je me souviens que j'ai dû peut-être voir Chronique paysanne en Gruyère à la télévision, parce que c'est un film qui avait eu quand même beaucoup de succès en Suisse, et que j'ai dû le voir avec mes parents à la télévision, ou peut-être au cinéma avec mes parents, je me souviens plus. Mais le premier film que j'ai vu seul, en fait, et qui m'a fait prendre contact avec elle, c'était L'homme des casernes, en 94, parce que moi j'étais à un an ou un an et demi de faire mon service militaire, et que j'avais été voir le film ici dans une salle d'arrêt d'essai à Lausanne, et je lui avais écrit, en fait, à la suite de ce film. J'avais envoyé un mot. Et elle m'avait renvoyé en retour une lettre. Et ça, le livre que je prends là dans mes mains, qui est sa biographie écrite par Bertil Gallon, et dedans, il y avait un petit mot. Je vais ouvrir, c'est à la troisième page. C'est marqué pour Lionel Bayer avec mes amitiés cinématographiques, Jacqueline Veuve, le 6 juin 94, 94, comme on dit dans le canton de Vaud, le D-Day. Et je me souviens de ce livre parce que le fait que ce soit le D-Day, en fait, pour moi, c'était mon débarquement dans le cinéma suisse, en fait. Et très concrètement, ce jour-là, le jour où je lui ai envoyé cette lettre, c'était la lettre de mon débarquement dans le cinéma suisse en tant que personne qui avait envie de faire du cinéma.
S'il existe un Dieu dans le ciel, m'écris-tu dans ta dernière lettre, qu'il te fasse bientôt revenir vers moi et en bonne santé, car, as-tu poursuivi, un homme comme toi qui aime les animaux, les fleurs, qui n'a jamais commis d'injustice, qui aime et vénère sa femme et ses enfants, doit toujours vivre sous la protection de Dieu. Je te remercie pour le contenu de cette lettre que je porte en permanence dans la poche de ma tunique. Mais, ma chérie, si tes paroles veulent être bienveillantes, et si tu les fais dépendre de l'existence de Dieu, tu te trouveras bientôt en face d'une lourde et grave décision. Je suis un homme épris de religion. Tu as toujours été une croyante. Pour longtemps, peut-être pour toujours, cette lettre est la dernière. Un camarade qui doit aller à l'aérodrome l'emportera avec lui, car demain décollera le dernier appareil. La position est devenue intenable. Les Russes sont à moins de 3 km de notre dernière base aérienne. Et lorsque celle-ci sera tombée entre leurs mains, une souris elle-même ne pourrait s'enfuir. Et moi, pas davantage. Pas davantage des centaines de milliers d'hommes. Bien mince consolation d'avoir à partager sa propre disparition avec tant d'autres. S'il y a un Dieu. De l'autre côté, il y en a beaucoup aussi. En Allemagne, en France... à coup sûr, des millions. Je ne crois plus en Dieu car il nous a trahis. Je ne crois plus. Et toi, t'en sens-tu toujours capable?
Ce qui me touche dans les films de Jacqueline Veuve, c'est que ça raconte quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, par les mots, sur la façon dont les gens vivent ici. Que ce soit aussi bien dans l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce pays a collaboré ou n'a pas collaboré pendant la guerre 39-45, la mauvaise conscience qui peut naître du rapport que ce pays a eu avec l'Allemagne nazie, mais aussi de tout le rapport que l'on entretient avec les artisans, avec une sorte de valorisation du geste ouvrier, parfois à défaut, à contrario de la valorisation d'une élite intellectuelle. Et ça m'avait beaucoup fasciné, en fait, que ce soit raconté de façon aussi simple, aussi limpide dans son cinéma, qu'il y avait quelque chose qui se disait très très fort, que je ne pouvais pas exprimer autrement que par des images. Et moi, j'ai depuis petit une envie de faire du cinéma, mais l'idée de l'ancrer dans quelque chose qui pourrait être une réalité locale, ça ne m'était pas apparu aussi clairement que dans son cinéma.
Elle a décidé de s'attacher et de travailler sur son pays d'origine. Qu'est-ce que c'est être suisse ?
D'abord, c'est une tâche considérable parce que c'est un pays qui ne suscite pas d'images ou qui n'évoque pas les images, qui en a même peur, comme souvent les pays protestants, mais c'est-à-dire où le représenter est quelque chose d'un peu impur et d'un peu compliqué. Et qu'il y a une deuxième complication, c'est que le cinéma, c'est travailler sur des corps et que le corps est la chose qui fait sans doute le plus peur aux protestants, la corporalité, le physique. Et puis, encore difficulté supplémentaire liée à la Suisse, c'est un pays sans histoire. C'est un pays qui ne subit plus l'histoire depuis Marignan 1515, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a plus perdu de guerre, qu'il n'a plus été en danger véritablement. Et quelque chose de fondamentalement différent entre la Suisse et n'importe quel village de France ou de n'importe quel autre village d'Europe, il n'y a pas de monument aux morts. Quand on marche dans les villages suisses, on peut traverser le pays en entier, il n'y a pas de monument aux morts, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'impact de balles sur les murs, il n'y a pas de bâtiments détruits pendant la guerre. Et je pense que ça forge quelque chose de façon... Le fait d'être confronté à l'histoire, la grande histoire, quand on est petit, ça forge quelque chose qui est la compréhension de qu'est-ce que l'on fait dans une continuité. Et ça, ça n'existe pas en Suisse. Et je pense qu'un pays qui n'a pas une grande histoire n'a pas beaucoup de petites histoires à raconter, a priori. Et là où Jacqueline Veuve a été assez maline sur comment est-ce qu'on pouvait raconter ce pays, c'est qu'elle a utilisé cette forme documentaire que les gens connaissaient par le reportage de télévision. Ça ressemblait, les films semblaient ressembler un petit peu à du reportage. Par contre, elle a réussi vraiment à raconter des choses extrêmement sévères, précises, concises sur ce pays que jamais la fiction aurait pu dire de façon si claire. Et donc, je crois que, de peut-être même par son statut de cinéaste documentaire, qui est toujours moins valorisé comme ça que la fiction, avec tout ce que ça peut comporter de fantasmes et d'idées sur qu'est-ce que c'est que le cinéma de fiction, elle a cette espèce de truc d'avancer dans le concret. Et c'est peut-être cela qui lui permet d'avoir une telle facilité avec les entretiens, avec le rapport qu'elle a avec les témoins dans ses films. C'est-à-dire que je crois qu'elle comprend intrinsèquement le rapport qu'ils ont au travail, que ce soit des paysans, des maraîchers, des vignerons ou des soldats dans l'armée suisse, l'idée du travail et de la pénibilité physique du travail, elle la comprend très bien. Et je crois que les gens qu'elle filme le voient chez elle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est plus une jeune femme aujourd'hui, c'est une dame qui a un certain âge. Elle est sur le tournage, elle est là, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Elle encourage les gens à refaire encore une prise. Alors que moi, quand j'étais son assistant, j'avais 20-22 ans. Des fois, j'ai envie de me dire, on se tire, ça suffit. C'est bon, on a compris. Quand le vent souffle dans le camp de Rivesaltes et qu'il fait un froid horrible avec une sorte de froid humide monstrueux, c'est elle qui dit, on en refait une, on tourne ça, on refait ce truc. Elle est inépuisable. Elle est assez dure, des fois, ouais, ou dans le sens où elle a écrit quelque chose, ou des fois, elle enregistre au son avant des interviews, puis elle demande à ce que les gens redisent exactement la même chose. Donc elle leur dit, vous m'avez dit ce mot sur la bande, vous m'aviez parlé, vous avez utilisé cette expression, redites-le moi maintenant dans cette phrase, reprenez-le comme ça. Et donc les gens redisent ce qu'ils avaient dit, dirigé par Jacqueline, et ça finit par avoir ces entretiens qui sont assez particuliers. Et je trouve que pour moi, il y a une sorte de gain de réel dans tout ça. J'en apprends plus sur cette façon de faire que si je les avais laissé parler et qu'on avait monté. Parce que ça a fait que le montage est beaucoup plus précis aussi. Ça me permet, moi, comme spectateur, d'avoir un rapport plus direct au témoin. Il y a moins le montage qui est passé par là, même si tout est monté. Mais quand il parle, il y a une prise de parole qui est presque générale, comme ça, qui fait que je suis en présence de quelqu'un qui me dit quelque chose. Et je pense qu'elle a raison de le faire. En tout cas, ça marche avec son système.
Pour quelle raison elle a décidé de produire ces... Elle a dû produire ces documentaires ?
Ah, mais je crois qu'elle fait peur à beaucoup de producteurs. Parce que, vous savez, aujourd'hui, l'aventure de... C'est plus une aventure de faire de la production. Pour la plupart des producteurs, c'est d'être un truc qui est plié, casé, tip-top, comme on dit en Suisse. C'est-à-dire qu'on doit être sûr qu'au à la fin du film, on arrive dans le budget, dans les montants, etc. Et puis, elle n'a jamais attendu d'avoir de l'argent pour faire un film. Et ça, j'ai beaucoup appris d'elle aussi. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été dans cette espèce de posture de réalisateur à dire, dans le fond, l'État, la télévision, les collectivités publiques m'empêchent de faire des films. On ne me donne pas de l'argent pour faire mon film. Et c'est toujours dit, si je veux faire un film, je le ferai. La question du financement, c'est secondaire. C'est-à-dire, on trouvera un, et si j'ai pas beaucoup d'argent, je ferai avec très peu, puis si j'ai de l'argent, je le ferai correctement. Pour un producteur, c'est une angoisse totale, parce qu'elle est prête à prendre tous les risques. Et dans le final, elle sait qu'elle y arrivera. Et d'ailleurs, tous ses films ont toujours été rentables, il n'y a jamais eu vraiment de problème important, à part quelques films, mais ça n'a jamais été des problèmes. Même certains ont été très rentables, parce qu'ils ont été des succès. Mais je trouve qu'il y a un côté où elle se dit, je vais y aller. Et après, elle est prête à tout pour les faire fonctionner. Quelque chose qui se fait peu maintenant, c'est qu'elle les accompagne, mais partout. Elle va partout. À son âge, elle voyage partout. Mais si on lui demande de projeter le film en plein milieu de la Beauce, dans une salle de 15e catégorie, ou même dans un ciné-club perdu au fin fond de l'Auvergne, elle ira. Elle prendra sa voiture ou le train, elle ira présenter le film, puis les gens à la fin feront un apéro, puis elle boira travers, elle bouffera un peu de charcuterie locale, et puis elle, et aussi bien si c'est à l'autre bout du monde. Donc cette espèce de truc d'accompagnement, et encore une fois, c'est comme des produits du terroir. Elle va les défendre un peu partout. C'est une AOC, Jacqueline Veuve, quoi. Donc elle se dit, elle va défendre son AOC un peu partout. Et on se l'a, par contre, c'est, aujourd'hui, dans le monde de la production, ça n'existe plus. Qu'elle commence un film ou qu'elle se dise, je vais commencer avec mon argent à moi, puis on verra bien ce qui se passe après. Et ils disent, non, on peut pas faire ça, parce que si t'as déjà commencé à filmer, on pourra pas demander de l'argent au gouvernement. Elle vous dira, on ment, on fait comme tout le monde, on va mentir. C'est un brigand, je veux dire, elle organise des machins, elle promet des films. Elle fait toujours, par contre, elle fait toujours ce qu'elle a dit, mais ça passe des fois par des trucs, elle est d'une sympathique malhonnêteté, comme seule une réalisatrice de documentaire peut se permettre. Mais vraiment, des fois, c'est des coups hyper tordus pour arriver au final, la seule chose qui compte, c'est faire un film.
On a mis la pression dans son lait, on brasse la chaudière, et puis quand on a arrêté la chaudière, ça veut dire tranquilliser le lait, arrêter le lait complètement de la chaudière. Alors là, on fait avec la poche, on fait le signe de croix.
Quand on voit un film de Jacqueline Veuve, on entend toute une région qui s'exprime, et l'âme de cette région qui résonne.
Jean-François Amiguet, cinéaste suisse.
Les gens ont une odeur, les gens ont un rythme, une lenteur, un humour, une malice... un côté matois que Jacqueline a parfaitement su saisir. Et je crois que ces films, au-delà du strict intérêt des sujets comme ça ou des thématiques qu'elle a abordées, que ces films, c'est une façon vraiment de scanner l'âme, je trouve pas d'autre terme, de cette province qui n'en est pas une, comme disait Ramu. On voit la différence entre pays catholiques et pays protestants. Les vignerons de Lavaux qu'elle filme sont différents de ces agriculteurs fribourgeois qui bûcheronnent en plein hiver dans la neige dans l'arrière-pays fribourgeois. C'est évident. Et je trouve qu'un des intérêts essentiel de son œuvre, et c'est ce qui fera, à mon sens, que cette œuvre va rester, beaucoup plus qu'une grande majorité de nos films de fiction, je pense que l'intérêt réside justement dans le fait qu'il y a un côté ethnographique très très marqué et qui parle vraiment de la Suisse romande. Moi, je pense que Jacqueline n'a jamais cessé de filmer comme elle l'a fait avec La mort du grand-père. Je pense que Jacqueline est quelqu'un qui a été fouiller, gratter là où ça fait mal, c'est-à-dire là où on a nos origines les plus profondes. C'est ses parents, c'est ses arrière-grands-parents, ses oncles, ses tantes qu'elle n'a jamais cessé de filmer tout au long de sa carrière et qu'elle continue de filmer. Il y a quelque chose de Jacqueline dans cette petite dame qui tient un cinéma gigantesque, beaucoup trop grand pour elle. Elle filme cette femme, c'est un espèce de portrait d'elle-même, de portrait. C'est monstrueux.
La petite dame au Capitole, c'est ça?
Voilà, la petite dame du Capitole, c'est Jacqueline. Je veux dire, Jacqueline qui est beaucoup plus petite que son œuvre. C'est évident, comme cette dame perdue dans ce cinéma de 1000 places. Donc je pense que Jacqueline a écrit une sorte de journal intime en cherchant d'où elle venait. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'elle a filmé la Suisse romande. Et que moi, il y a un film que j'aimerais énormément revoir d'elle, c'est « La mort du grand-père ». Parce que je pense que c'est une œuvre majeure. Il y a des liens qui se tissent entre cette approche-là et ce qu'ont fait des écrivains comme Chessé à la même époque. Je pense que c'est des démarches qui sont, d'un point de vue formel, différentes, mais sur le fond, ça participe du désir d'essayer de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va.
Le pasteur est venu. Et puis là, dit au pasteur, oh, vous savez, je suis prêt. Et puis alors, il y avait Robert qui était là, et puis qui a dit, mais est-ce que tu aimes, il y a quelque chose qui te ferait envie? Et puis il a dit, Robert l'a dit, oui, tu peux demander ce que tu veux. Puis il dit, oh, un verre de champagne. Ça fait que Robert a dit, oh, ben si c'est que ça, on va te donner un verre de champagne. Il était tout content, il a bu son verre de champagne, il nous a dit encore quelques mots, et puis il a dit, vous savez, tout le monde n'arrive pas, non, non, non. Moi, je suis déjà quand même bien, je suis déjà bien content d'avoir pu profiter de ma famille, et puis de voir que vous avez tous bien tourné, et puis que vous avez un métier, que vous avez une profession, et tout ça. Et puis, alors, j'ai l'âge de m'en aller.
Est-ce qu'elle vous intéresse toujours par ces sujets ?
Je crois que ce qui m'intéresse, au-delà de l'aspect ethnographique, descriptif, qui est très réussi dans son œuvre, moi je crois qu'il y a une unité dans tous ses films, c'est quand même une très grande présence de la mort. Les films de Jacqueline, qui sont des films très positifs, très courageux, qui donnent envie de vivre, sont tous marqués quelque part du sceau de l'angoisse, de la disparition, parce que ces êtres qu'elle filme ne sont pas éternels, ils font des métiers qui vont disparaître. Je crois que Jacqueline n'a jamais finalement cessé de filmer la mort du grand-père, et c'est peut-être là où personnellement je m'y retrouve, mais je pense que Jacqueline... qui brave comme ça les obstacles et qui fait des espèces, qui célèbre en fait le travail, l'humilité dans le travail des autres. Derrière tout ça, il y a une immense angoisse existentielle, il y a une immense... c'est l'abîme, enfin, c'est la mort, quoi, qui est derrière tout ça. Quand je rencontre des gens comme elle, qui râlent, elle râle, hein, Jacqueline, elle est en colère. Elle est comme son ami Freddy Buache, elle est en colère. Elle a de bonnes raisons de l'être, parce que ces gens qu'elle filme, c'est pas les divas du système, hein, c'est pas les grands hommes politiques, c'est pas les stars, hein, qu'elle filme. C'est des gens du peuple qui bossent, qui gagnent péniblement leur vie et qui sont menacés par la société, par l'évolution de la société et du mondialisme. Donc je pense que c'est quelqu'un qui fait un travail de... Chacun de ses films est une forme d'acte de résistance, c'est une militante, elle se bat.
En regardant ces films, j'ai trouvé que ça n'avait rien à voir vraiment avec les documentaires qu'on croise aujourd'hui, les documentaires qui plaident pour le matériel délibérément brut.
Si on se place du point de vue de l'analyse formelle et du style, je pense, c'est pas une formule, hein, mais je pense que quand Jacqueline fait de la fiction, elle a une approche documentaire, et quand elle fait du documentaire, elle met en scène comme en fiction. C'est très concerté, il y a une mise à distance du réel, il y a une réappropriation du réel, et ça ressemble furieusement à un film, à un vrai film de fiction. Je pense qu'il y a une démarche stylistique dans ce travail qui est fait avec beaucoup de modestie, beaucoup de simplicité. Mais je pense qu'il y a une écriture, je pense qu'il y a une véritable écriture cinématographique, peut-être pas dans tous ses films, Mais dans les plus réussis, en tout cas, ça échappe au strict langage télévisuel. En tout cas, c'est évident, ça relève de l'évidence. Notamment dans la dialectique entre le son et l'image, qui est quand même toujours très complexe chez Jacqueline. Il y a un vrai travail de montage aussi. Elle sait aller vers une forme de rareté, quoi. Elle est économe. Elle est économe, elle ne fait pas des films chers, il n'y a pas d'effet de manche, elle rabote, elle lime comme les personnages des Métiers du Bois. Il y a une vraie proximité entre elle et ses personnages, c'est pour ça que c'est tellement réussi.
Merci à Jacqueline Veuve, Lionel Bayer, François Amiguet, Léopold Veuve et Freddy Buach. Attachée de production, Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Productrice, coordinatrice, Irène Omelianenko. Mixage, Ronan Mahé. Merci à Francis Pascal. Un documentaire de Johanna Bedeau et Rafik Zénine.
Vous pouvez podcaster ou réécouter ce documentaire sur le site de France Culture. Demain, c'est la vie de Nina Simone qui sera retracée par David Brin-Lambert. Maintenant, nous avons rendez-vous avec la chronique de Céline Duchesnay.